Bonjour à toutes et à tous. Il y avait un joyeux brouhaha ce matin. Je pars du principe que vous avez donc pu vous saluer les uns les autres, du moins je l'espère, en ce début de culte. Donc à mon tour de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux de l'Église évangélique de Meyrin, dans lesquels j'ai le plaisir de vous accueillir. Soyez les bienvenus et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre nous ce matin. En introduction à ce temps de culte, j'aimerais vous présenter une, je ne sais pas si vous voyez, une jolie chaîne de montagnes. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Ah oui, oui, le Mont Blanc, hein, on le reconnaît bien. C'est vrai que nous avons eu la chance pendant les vacances de février eh bien, de pouvoir admirer ce magnifique paysage. Et c'est vrai qu'il y a des montagnes qui impressionnent. Lorsqu'on se retrouve face à un Mont Blanc si proche, on est toujours émerveillé. Émerveillé par tant de majesté, cette haute cime toute blanche qui se découvre dans un ciel qui, en tout cas juste avant et juste après, était tout bleu. Bien sûr que pour la photo, il y a toujours un petit bout de nuage. Et puis aussi impressionné par une nature si imposante, voire si indomptable, puisque en fin de compte, on le dit dans le milieu des montagnards, c'est toujours la montagne qui gagne. La montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse, disait un célèbre alpiniste, Reinhold Messmer. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'une montagne? Parce que cette image de la montagne m'a trotté dans la tête pendant la préparation de ce culte. Et en fait, j'ai pensé plutôt à la métaphore qu'on utilise avec la montagne. Vous connaissez l'expression « se faire une montagne » d'une taupinière, lorsqu'on exagère les difficultés de quelque chose. Oui, lorsqu'un problème, un souci, une difficulté prend une importance ou des proportions exagérées, on en fait une montagne. Et quand on a une montagne devant soi, comme le Mont Blanc, eh bien, elle prend tellement de la place qu'on ne voit plus rien autour, on ne voit plus ce qu'il y a derrière, on n'imagine plus ce qu'il y a au-delà de cette montagne. Et surtout quand elle est là depuis longtemps, cette montagne, on n'imagine même plus ce qui pourrait advenir. Elle est là, tout est bouché, notre horizon est bouché, la difficulté qu'elle représente semble insurmontable. Bref, la montagne nous écrase. Cette montagne devant soi, j'y réfléchissais, ça peut être à la fois un souci, une difficulté, je l'ai dit, mais aussi une peur, de l'amertume, de la colère, ou encore une faute commise, un remords, un regret, un sentiment d'injustice, et j'en passe. Bref, toute chose qui finalement vient prendre la première place, une place trop importante, une place exagérée dans nos vies et qui nous fait oublier ou ne plus voir l'essentiel. Alors ce matin, j'avais à cœur au début de ce culte de nous inviter à un acte de foi, à un acte de confiance. J'aimerais nous inviter à tout simplement déplacer ces montagnes. Déplacer des montagnes. Simplement, ce matin, à choisir pour ce temps de culte à les mettre de côté afin de pouvoir nous ouvrir à une autre dimension, à ce qu'il y a au-delà, à ce qu'il y a derrière cette montagne, bref, à redécouvrir, à découvrir, à nous imprégner de quoi, eh bien, de qui, d'un Dieu qui lui aussi est grand et majestueux, plus grand, plus majestueux que ces montagnes qui nous oppressent. Un Dieu qui nous sauve de notre détresse. Et nous allons tout à l'heure, avec le groupe Louange, louer un tel Dieu. Redécouvrir, découvrir un Dieu qui est le Dieu de l'impossible et qui nous ouvre un chemin d'espérance, même quand on a des fois de la peine à croire. Et Denis Félix nous en parlera dans sa prédication tout à l'heure. Un Dieu qui pardonne et qui est tous les jours avec nous, de sorte que nous pouvons persévérer avec courage et détermination, jour après jour, avec la force qu'il nous donne, et nous nous en souviendrons quand nous partagerons ensemble la Sainte Cène. Oui, ce n'est pas une montagne que nous voulons laisser grandir dans nos vies, mais c'est bien plutôt notre foi, notre espérance dans le Christ vivant. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui, nous dit le roi David dans le psaume 34. Et c'est bien ce que nous voulons faire ce matin. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Père céleste, toi qui nous accueilles dans ta maison, donne-nous d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui nous appelle à la vie, à une vie qui porte du fruit en abondance. Donne-nous de nous mettre en route avec toi, avec foi. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Donne-nous de savoir goûter à ton repos. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui pardonne et qui nous relève quand nous trébuchons. Donne-nous de savoir nous repentir. Merci pour tous ceux qui, ce matin, sont dans la joie. Merci aussi de prendre soin de ceux qui sont fatigués et chargés. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'invite le groupe Louange à monter sur scène. Nous voulons ensemble chanter, louer, invoquer ce Dieu qui nous aime.
Bonjour. Alors moi, on va passer de la montagne à ce qu'on ne voit pas. Et j'avais cette petite phrase qui n'est pas biblique. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors pas biblique, mais pas tant que ça finalement. Il y a d'autres versets qui parlent aussi de ça. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette petite phrase m'a trotté aussi dans la tête et je crois que lorsque Dieu entre dans notre vie, il y a ce côté invisible qui renaît, il y a ce côté essentiel. Et on me demandait récemment de parler un peu des évangéliques, qui étaient les évangéliques, et j'ai essayé de répondre, c'est pas évident, hein. Essayez une fois de faire l'exercice. Ce n'est pas évident de parler des évangéliques sans vouloir peut-être défendre quelque chose. Puis après, je me suis dit, non, mais attends, l'essentiel, ce n'est pas qui on est. L'essentiel, c'est qui est Dieu. Après, qu'on soit évangélique ou... Voilà, mais l'essentiel, c'est qui est Dieu. Parce que l'essentiel, il est ailleurs que dans notre communauté évangélique ou notre appartenance évangélique. L'essentiel, il est Dieu et en Dieu. Alors ce matin, qu'on puisse ouvrir les yeux de notre cœur, les yeux de notre foi, ne restons pas sur le seuil de la maison de l'Éternel, mais entrons dans la maison de l'Éternel et laissons-le pénétrer nos cœurs et nos vies. Je vous invite à un temps de louange, je vous invite à vous lever si vous en avez envie et à ouvrir les yeux de notre cœur. Je désire te voir. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis pour être tes enfants et tu as choisi de nous aimer. Merci Seigneur de cet amour, de ce privilège. Merci de ce que nous avons, ce privilège de pouvoir te louer en toute liberté, de pouvoir célébrer ta victoire, de pouvoir ouvrir notre cœur. Merci Seigneur d'être notre essentiel ce matin et dans notre vie. Amen. Je vous invite à un prochain chant. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Et pendant ce chant, oui, qu'on puisse penser à qui est Dieu pour moi, qu'est-ce qu'il représente pour moi. Parce que oui, on est trop petit pour dire, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, mais je pense malgré tout qu'on peut lui dire combien on l'aime. Donc, il est tellement grand, mais on peut quand même lui dire quelque chose. Et je propose que pendant ce chant, on puisse le dire avec notre cœur. Et puis, à la fin de ce chant, je donnerai un petit temps de prière libre, où on pourra exprimer par des courtes prières notre amour pour notre Seigneur. Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus des majestueuses montagnes, au-dessus de l'univers, tu es difficilement captable par notre petit esprit humain et pourtant tu as choisi de marcher avec nous, tu as choisi de nous accompagner, de prendre sur toi le fardeau de nos vies. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes, pour cette joie de t'appartenir que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons te louer pour l'essentiel que tu représentes pour chacun de nous ici. Amen. Amen. Seigneur, je te prie que la louange qui déborde de nos cœurs ce matin puisse déborder dans nos vies, de nos vies, dans la semaine. Et Seigneur, nous avons une pensée pour nos amis qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, merci de nous encourager à non pas seulement parler des évangéliques, mais de parler de l'évangile et de cette bonne nouvelle que tu es. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous accompagnes et tu nous encourages. En aucun cas, tu condamnes, mais tu veux vraiment convaincre. Et Seigneur, c'est dans l'espérance aussi de la conversion de nos amis que nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Amen. Thank you. Amen. Je vous invite à vous rasseoir.
Merci à l'équipe. Le Seigneur n'attend pas un grand nombre d'années pour se révéler à nous, pour toucher nos cœurs et transformer nos intelligences. Il le fait aussi envers les plus petits. Et nous voulons les bénir, tous ces enfants qui sont au milieu de nous. Les enfants, soyez bénis et vous pouvez rejoindre vos moniteurs pour la suite. Et nous prions que le Seigneur, eh bien, puisse encore vous parler. Et nous bénissons aussi tous ceux qui s'occupent de vous. Nous voulons continuer à nous imprégner de qui est Dieu, qui est notre Seigneur Jésus, et nous voulons entendre sa parole. J'aimerais vous inviter à une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 9, les versets 14 à 29. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée, et l'on accourut pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette à terre, et l'enfant écume, grince des dents, et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'en ont pas eu la force. » Prenant la parole, Jésus leur dit : « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci, tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il lui dit : « Depuis son enfance. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur : « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus. » Avec des cris et des violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient : « Il est mort. » Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit : « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Amen. Merci, Denise.
Dans mon dernier message, j'avais pris pour thème le non-exaucement de la prière, parce que c'est quelque chose de douloureux qui parfois nous décourage même de prier quand on n'est pas exaucé. Et j'avais exploré le sujet de la prière dans des textes de Matthieu 6 et 7 pour en tirer la conclusion que Dieu est souverain, Dieu n'a pas de compte à nous rendre, mais qu'il n'a pas dit son dernier mot. Pour dire aussi que la prière est avant tout une relation avec Dieu, où Dieu prend soin de nous, et qu'au-delà de l'exaucement, nous trouvons toujours la présence de Dieu, comme l'ont témoigné Paul, ou Job, ou Martin Luther King, ou d'autres. Alors ce matin, avec le texte que j'ai choisi, j'ai repris la problématique du non-exaucement, mais pour explorer la piste de la foi. Quand on n'est pas exaucé, souvent parce qu'on a besoin de se rassurer en trouvant une explication ou un responsable, on pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de foi qu'on croit mal. Alors, pour préparer le sujet, j'ai essayé de relire des textes où la foi est en relation avec l'exaucement. Des textes qui mettent en relation l'exaucement et la foi. Par exemple, le texte que on vient de lire, l'homme vient d'avouer qu'il a peu de foi, mais son fils est guéri. Vous vous souvenez de la femme à la perte de sang qui a touché le bord du manteau de Jésus? C'est un acte superstitieux. Elle ne connaissait presque rien de Jésus. Et pourtant, Jésus l'a guérie. Et puis, quand ses disciples avaient peur au milieu de la tempête, Jésus leur a reproché leur manque de foi, mais il a calmé la tempête et il les a rassurés. Vous connaissez aussi ce texte qui dit que il dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, c'est petit une graine de moutarde, hein, 3 mm, Raymond, comme ça, même pas, c'est petit, hein. Vous diriez à cette montagne d'aller de là jusque là, elle irait. Bien sûr, quand on voit le Mont Blanc, c'est difficile à croire, et je crois que Harry avait raison. Mais on utilise aussi souvent l'expression « avoir la foi qui déplace les montagnes », avec en arrière-pensée que la foi est grande si elle arrive à déplacer les montagnes. Alors que là, Jésus il utilise l'image d'une toute petite graine, donc une foi toute petite. Donc je conclue que peu importe la foi, pourvu qu'il y ait foi, même petite, même pas très orthodoxe. Le manque de foi, ce n'est pas l'incrédulité. Seule l'incrédulité, parce qu'elle est fermeture, rejet, est une barrière à l'exaucement, comme à Nazareth où Jésus n'a pu faire aucun miracle. Avant notre texte, il y a des succès. Les disciples sont partis en mission, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. À leur retour, ils ont vécu 2 multiplications des pains. Ils pouvaient être sur un nuage. Mais dans notre texte, ils sont devant un échec. Et puis après notre texte, il y a la deuxième annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces deux faits nous rappellent que la vie dans la foi n'est pas faite que de succès. Mais que l'absence de succès ne veut pas dire qu'il n'y a pas absence de foi. Notre texte est intéressant pour parler de la foi parce qu'elle y est présente de bout en bout. Au début, Jésus est absent. Il est sur la montagne de la Transfiguration avec 3 disciples. Donc la foule, les scribes, les disciples restants sont dans la même situation que nous, sans la présence physique de Jésus. Le décor n'est pas vraiment celui de la foi. La foule discute, elle ne sait pas ce qu'il faut faire, elle paraît comme désemparée, perdue, comme témoigne le Père qui dit « Mais j'ai dit, dont Luc s'est même dit, j'ai prié tes disciples et ils n'ont pas eu la force. » C'est lui qui a prié, il a prié les disciples comme s'ils avaient, c'était des super-héros avec un super-pouvoir. On ne sait pas très bien où est Dieu là. Là, on patauge, on tourne en rond dans notre humanité. Et encore à la fin, quand l'enfant ne bouge pas, les gens le croient mort. Comme s'il n'y avait pas eu exaucement. Bon, Jésus descend de la montagne, il rejoint ses disciples, il s'intéresse Il pose une question. De quoi discutez-vous avec vous ? Il fait la même chose avec les disciples des Emmaüs qui étaient désemparés par la mort de Jésus et par les bruits de résurrection. Il s'approche d'eux et il leur dit « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Jésus avait aussi guéri un aveugle dans l'évangile de Jean, un aveugle qui ne lui avait rien demandé, un aveugle qui ne savait même pas qui il était, donc qui n'avait pas de foi. Mais cet homme avait été ensuite interrogé par les pharisiens et malmené. Et Jésus, l'ayant su, l'a rencontré et lui a parlé. Là aussi, Jésus est venu à son aide. Jésus ne nous laisse pas dans le désarroi. Un homme se détache de la foule et lui parle de son fils. C'est un père qui a fait sienne la souffrance de son fils. Il dit « Viens à notre secours et aie pitié de nous ». Il ne s'adresse pas à Jésus comme à un guérisseur faiseur de miracles, plutôt comme à un médecin qu'on consulterait. Le père expose la situation de son fils, qui a un esprit muet. Jésus demande à le voir, pose des questions. En somme, c'est une discussion d'homme à homme ou de patient à médecin. Sauf que pendant ce dialogue, à deux reprises, Jésus nous interloque un petit peu, il nous secoue, il nous surprend. Au moment où le Père raconte qu'il a demandé aux disciples de chasser l'esprit et qu'ils n'ont pas réussi. Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? Génération, donc, il ne s'adresse pas seulement au Père, pas seulement aux disciples, peut-être même pas seulement à la foule présente là, mais à tous ceux qui ne croient pas. Incrédule, littéralement, ça veut dire sans foi, c'est-à-dire qui refuse de croire. Donc, comme je l'ai dit au début, qu'il y a une fermeture. Et je me demande si dans cette réaction, il n'y a pas le désir de Jésus. Il sait qu'il va partir. Il sait que ses disciples auront à vivre sans lui. Et voilà que pour une fois qu'il les laisse, ils ne réussissent pas. C'est un peu comme un père qui essaye d'enseigner la vie à ses enfants et puis qui les voit faire des bêtises, qui dit « Mais vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul. » Et puis la deuxième fois, c'est quand le père dit « Si tu peux. » « Si tu peux ?» Mais tout est possible à celui qui croit. Le Père, si vous remarquez, il fait appel à Jésus, si tu peux. Et Jésus le renvoie à lui, celui qui croit, toi, à celui qui croit, tout est possible. Alors, on se pose la question, mais est-ce que la foi en elle-même aurait un pouvoir ? On retrouve cette idée dans certaines paroles de Jésus. À la femme à la perte de sang, par exemple, ou à la veuve qui criait au bord du chemin, ou au seul lépreux parmi les 10 qui est revenu remercier, ou la femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus, Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». Et puis aux disciples qui paniquaient dans la tempête, il a dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Comme si la peur aurait dû les empêcher, non, comme si la foi avait dû les empêcher d'avoir peur. Et puis au centurion, à la femme cananéenne, il dira qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Jésus ne dit pas que c'est lui qui opère le changement, mais la foi de la personne. Si Jésus dit au père de notre récit, tout est possible à celui qui croit, c'est que c'est vrai. Il se passe vraiment quelque chose pour celui qui croit, parce qu'il croit. Ce n'est pas seulement l'intervention de Jésus, c'est le fait de croire, la foi elle-même qui produit quelque chose en nous. C'est assez mystérieux. Quand je crois, quand je suis dans la confiance, je ne suis pas dans la fermeture, mais dans l'ouverture, dans la réceptivité. La foi, c'est peut-être des fois lâcher quelque chose pour se perdre sans doute, ou s'élancer, je crois, vient au secours de mon incrédulité pour recevoir Dieu. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas à ce moment-là, qui est comme une rencontre entre mon mouvement vers Dieu quand je lui demande de l'aide et le mouvement de Dieu vers moi qui me répond. Là, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne maîtrise pas, mais qui est bien réel au fond de notre cœur. Ce n'est pas forcément l'exaucement de ma prière. C'est la présence de Dieu que je vis. Et souvent, cela bouleverse beaucoup. Et c'est un trésor qu'on reçoit. Ça veut dire aussi que je ne suis plus une coquille de noix ballottée à tout vent, mais que j'ai un ancrage parce que Dieu est là. Devant l'exclamation de Jésus, le Père prend peur. Et si Jésus, parce que j'ai dit cela, seulement si tu peux, allait ne pas guérir mon fils, alors il se jette à l'eau. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Cette parole est magnifique. Elle dit le désir du Père de croire et elle dit la vérité qui est en lui. J'ai de la peine à croire. Il ne triche pas, il ne fait pas semblant d'être un super croyant. Il dit la réalité qui est en lui et Jésus délivre son fils. Le fils est guéri et le Père a vécu une rencontre avec Jésus. La guérison est la preuve que quelque chose s'est passé. Elle n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais ce que le Père a vécu au fond de lui, on est la partie invisible. Et comme Catherine l'a dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Tout s'est passé dans la relation avec Jésus. Il y a eu un long dialogue, interrompu par deux exclamations dérangeantes de Jésus et terminé par le cri du Père. Aujourd'hui que Jésus n'est plus physiquement avec nous, n'est-ce pas ce que nous sommes appelés à vivre dans la prière? Parler de ce qui nous habite, pas seulement la louange et la reconnaissance, mais aussi ce qu'on n'ose pas dire, parce qu'on l'associe à un manque de foi, on a peur d'être accusé de manquer de foi. Nos colères, nos doutes, nos ras-le-bol, nos peurs. Les deux choses cohabitent, la reconnaissance et les difficultés. Antoine Nuis, un pasteur protestant français, dans son livre « L'aujourd'hui de l'Évangile », qui est un commentaire de Marc, nous dit « La liberté que nous avons en Dieu nous permet de dire ce qu'il y a de plus profond, de plus intime en nous, et de le dire devant un tiers qui se tient au plus secret de notre histoire. Parce que Dieu est amour, il est celui devant lequel nous pouvons être nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de faire semblant, d'être des bons petits chrétiens bien gentils, bien polis. Nous pouvons enfin être vrais. Nous pouvons enfin dire « je crois » et dire dans le même temps « viens au secours de mon incrédulité ». Le dire, toutes ces choses, et nous laisser déranger, et croire avec la foi qui nous est propre, et s'attendre à Dieu dans la diversité de ses interventions. Après la délivrance, le Fils ne bouge plus, les gens le croient mort. Jésus le prend par la main, le fait lever et il se met debout. J'imagine que cet enfant qui se roulait par terre en écumant, ça devait faire un petit peu peur, ça devait être très impressionnant. Et Jésus, en le prenant par la main, le touchant, le remet parmi les vivants. On peut de nouveau être en relation avec lui. Les verbes utilisés par Marc pour dire le faire lever et se mettre debout sont les mêmes verbes qu'il utilise pour dire la résurrection de Jésus, comme si Marc voulait préparer ses lecteurs au sens de la résurrection de Jésus. Aux disciples qui demandent pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit, Jésus répondra : ce genre d'esprit ne peut sortir que par la prière. Est-ce que les disciples avaient oublié la prière ? Est-ce qu'ils avaient oublié Dieu ? C'est une étrange réponse parce que dans ce texte, Jésus n'a pas prié. Oui, mais Jésus a beaucoup prié dans sa vie, tout fils qu'il était. Il passait beaucoup de temps dans la prière. C'était pour lui le moyen d'être en contact avec son Père. Dimanche dernier, Claude Bécher nous disait que la prière nous met dans la proximité du Seigneur. La prière est pour nous le moyen d'entretenir et de garder la conscience du lien qui nous unit à Dieu, à Jésus. C'est souvent dans la prière qu'une réponse de foi nous est demandée et que nous ouvrons nos mains. Des fois, il faut lâcher pour recevoir Dieu, la présence de Dieu. La prière et la foi sont indissociables. Dans la prière, j'ai une bouche pour parler, une intelligence pour réfléchir, des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir. Tout ça, pas seulement parler. J'ai aimé ce récit parce qu'il nous ressemble. C'est nous quand nous souffrons pour nos proches. C'est nous quand nous ne sentons pas la présence de Dieu, quand nous doutons et que nous pataugeons dans notre humanité. J'ai aimé ce père qui dit « je crois » comme une bouée de sauvetage. Ça me fait du bien de voir qu'il a osé dire qu'il avait peu de foi. Il me donne la permission de faire de même. Ça me fait du bien de voir que quelque chose s'est passé, malgré tout. Il se passe toujours quelque chose, même si ce n'est pas ce que nous attendions, même s'il y faut du temps, beaucoup de temps. Notre cœur a parfois besoin de temps pour se préparer au don de Dieu. Courage, persévérance, Dieu est là.
Merci Denise, Dieu est là. Je vous invite à prendre quelques instants dans le silence pour intégrer, laisser résonner dans nos cœurs ce texte biblique, les paroles de Denise aussi. Je vous invite à un temps de silence. Nous le terminerons par la prière. Seigneur Jésus, nous ne comprenons pas tout, tout ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas toutes tes voies. Nous ne comprenons pas tout ce qui semble être tes décisions, quand parfois tu réponds, quand parfois tu ne réponds pas. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin l'essentiel de ta présence dans nos cœurs, ce désir que tu veux être présent dans nos vies, quelles que soient les circonstances, parce que tu as en vue ce futur auquel nous n'imaginons même pas, qui est cette éternité dans ta présence. Merci pour ce Père, merci parce qu'il a osé être tel qu'il était, de nous, Seigneur, d'être aussi simple, d'un seul bloc devant toi, tel que nous sommes, mais non pas dans cette incrédulité qui ferme, mais dans ce peu de foi nécessaire pour que tu touches nos cœurs. Merci pour ta bénédiction sur nos vies, Seigneur. Et je vous invite, si l'autre d'entre vous souhaitait encore partager une prière, une parole qui vous a touché, vous pouvez le faire. Amen.
Oui, Père, merci pour ce moyen que tu nous as donné, la prière, pour pouvoir te parler, pour pouvoir avoir une relation avec toi, Seigneur, pour pouvoir aussi t'entendre. Seigneur, tu ouvres nos cœurs. Seigneur, merci pour ce moyen tellement important. Oui. Seigneur, cette joie que nous pouvons être en communication avec toi, vraiment en relation avec toi.
Ouais. Amen. Amen. J'invite le groupe de louange à me rejoindre. Nous voulons chanter « C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Quel que soit ce que nous traversons, Dieu peut nous sauver. » Je vous invite à vous lever et par ce chant, nous allons entrer dans le temps de scène.
Thank you.
vous invite à reprendre place. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul nous dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Denise nous l'a rappelé encore tout à l'heure, la vie n'est pas faite que de succès, effectivement, mais avec Dieu, nous sommes assurés de sa présence, nous sommes assurés aussi de pouvoir recevoir le nécessaire pour persévérer jour après jour avec courage. Et c'est bien ce que nous voulons vivre dans ce temps de scène, ce que nous voulons nous rappeler, ce que nous voulons expérimenter dans ce temps de scène en partageant ce pain et ce vin, c'est recevoir tout à nouveau la paix, la grâce, l'amour de Dieu qui nous donne d'avancer un jour, encore un jour de plus, dans son amour. Antoine Nuis, pasteur dont nous a parlé Denise, disait ceci à propos de la scène, et cela introduira ce temps de scène. Parce que notre foi est trop petite, Dieu étend les sept couleurs de l'arc-en-ciel dans la nuée pour nous rappeler son alliance et sa fidélité pour tous les vivants. Parce que notre foi est trop petite, Dieu nous donne le pain et le vin de la scène et l'eau du baptême pour que nous comprenions mieux le sens de sa grâce. Parce que notre foi est trop petite, Dieu pose sur notre chemin des signes de sa bénédiction et de sa guérison pour que nous inscrivions l'Évangile au cœur de nos journées. Construit dans son identité par l'eau du baptême, nourri par le pain et le vin de la scène, éclairé par le signe de l'arc-en-ciel et accompagné par tous les signes que Dieu pose sur notre chemin, nous pouvons continuer à dire notre foi et notre manque de foi, sachant que Dieu sera toujours présent pour nous. Amen. Merci de me rejoindre, Denise. Et nous lirons l'institution de la scène en Matthieu 26. Versets 26 à 29. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis il le donna aux disciples, il dit: prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné afin que nous ayons la vie. La coupe de vin est l'image du sang de Jésus qui a coulé afin que nous soyons pardonnés et assurés du salut. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous accueilles avec la foi qui est propre à chacun d'entre nous. Nous te remercions parce que tu nous comprends. Tu sais de quoi nous sommes faits. Et tu viens vers nous pour nous aider à croire, pour cheminer avec nous. Jamais tu ne nous abandonnes. Merci Jésus-Christ d'être venu sur la terre. Merci de nous avoir portés à bout de bras et d'intercéder encore auprès de nous, auprès du Père pour nous. Nous en avons tant besoin. Merci Jésus. Amen.
Ce repas de communion auquel nous sommes tous invités nous sort de nos isolements et nous unit en un même corps, dans une même foi, un même amour et une même espérance en Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. J'invite Nicolas et Sylvie à nous rejoindre pour la distribution. Le pain et le vin vont circuler. Au milieu des plateaux, il y a du jus de raisin et le vin est autour. Et pour celles et ceux qui désirent communier à la coupe, je vous invite simplement à nous faire signe et je viendrai vers vous. C'est une coupe de jus de raisin. Je vous invite à rester dans cette présence du Seigneur et s'il y a quelqu'un qui désire encore s'exprimer par une prière, une parole, un encouragement, qu'il puisse le faire en toute liberté. vous invite d'un seul cœur à dire cette prière que Jésus nous a appris, le Notre Père. Prions. Notre Père, que ta venance soit sanctifiée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voulons encore vivre ce temps de l'offrande et je vous invite à vous lever. Nous voulons encore chanter. Comment te dire merci à ce Seigneur qui nous a tout donné. Seigneur, nous voulons t'apporter cette offrande, nous te la confions, nous te demandons qu'elle puisse servir et qu'elle soit bien utilisée par ceux et celles qui auront à la gérer. Nous te remercions parce que tu transformes nos cœurs, tu nous permets aussi de faire montre de générosité, que ce soit en argent, en temps ou en d'autres choses, envers celles et ceux qui nous entourent. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de cultiver cet esprit de générosité, de don, de service, parce que nous voulons marcher après toi, nous voulons te suivre et par là même t'honorer. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. J'aimerais demander pour les annonces, est-ce que Michel nous rejoigne ? Merci, Michel. Voilà les annonces du jour. Alors tout à l'heure, puisque nous sommes dimanche 26 février, il y a un repas qui est organisé pour les jeunes adultes et familles autour de la thématique recherche d'un pasteur. Hein. Et c'est le groupe de recherche de pasteurs qui organise ça. Il fallait s'inscrire, mais peut-être vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore participer. La porte est ouverte. Mardi, c'est le jour de la prière communautaire, la soirée de prière communautaire avec ce soir-là Flavien Negrini, qui sera accompagné également de son épouse Annette. Vendredi 10 mars, c'est notre colloque, notre assemblée générale, découvrir les projets de l'Église, voter les comptes et les budgets. Et puis, je vous signale, pour ceux qui reçoivent la convocation par courrier, les enveloppes sont à l'extérieur. Merci à Zéna pour ce service qu'elle nous rend très régulièrement. Jeudi 9 mars, c'est le jour d'avant, la Fontanelle organise, dans le cadre de ses 30 ans, une série de conférences. La première de ces conférences est à Genève, au Théâtre de l'Espérance. Tout tourne autour de la difficulté de communiquer entre parents et ados. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, cette conférence, vous pouvez vous adresser à Roger qui a certainement de la documentation. Samedi 11, la journée spirituelle des trois communautés de Mérin, donc l'EM, la paroisse protestante, la paroisse catholique, avec comme orateur Claude Bécher, le sermon sur la montagne au service de l'œcuménisme. Dernier délai, demain, pour s'inscrire, il y a des bulletins d'inscription à la sortie. Et les samedis 11 et 25 mars, donc ça tombe un peu en même temps, il y a une formation pour apprendre à aider les réfugiés à mieux communiquer en français. C'est une formation qui a été mise sur place par Wycliffe. Dominique Sewell l'a suivie, elle a trouvé ça extrêmement intéressant. Vous pouvez vous approcher d'elle si ça vous intéresse de suivre cette formation. Elle vous donnera des informations complémentaires. Mardi 14 mars, le fil d'argent à 14h30 avec Claude Bécher autour de la réforme, l'essentiel pour ce moment de partage, d'amitié. Également des prospectus à la sortie. Et le 18 du 3, découvrir Hortus à l'EM. Et ben voilà, il faut découvrir, donc vous êtes invités pour découvrir. Ce printemps, il y aura encore des baptêmes dans notre église. Roger est à disposition si vous êtes intéressé. Si vous désirez encore suivre la formation, vous pouvez encore vous manifester auprès de Roger Sewell, notre pasteur. Et puis le 20 février, voilà, bienvenue Lucas. C'est félicitations à Sophie Anja Rantuanina. Et félicitations à Myriam et Jean-Yves Muller, qui sont les heureux grands-parents.
Merci. Alors, comme certains le savent, Gaël et moi, on va se marier. Du coup, merci. Vous êtes tous invités à venir fêter ça avec nous au Temple du Sentier le 6 mai à 14h. Donc c'est à la Vallée de Joux. Vous êtes aussi invités pour l'apéro qui va suivre. Donc il y a des invitations qui sont posées sur le présentoir. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil après. Et puis pendant qu'on est là, après notre mariage, c'est normal si vous ne nous voyez pas tous les dimanches. C'est juste que comme on va habiter sur Renon, on change d'église et on ira à l'église des Trois Rois à Lausanne. Donc voilà, et puis vous nous verrez encore de temps en temps parce qu'on reste responsable du groupe de jeunes ici. Voilà.
Bravo. Voilà, c'est la fin des annonces, mais souviens-toi, amis spectateurs, que sans eux, tu n'aurais rien vu du tout. Voilà pourquoi. Dire suivant, s'il vous plaît. Ouais, we need you at the projection. On cherche des personnes pour assurer la projection. Si voilà, c'est un service que vous pouvez rendre pour faire vivre la communauté. Merci.
pouvez vous lever pour la bénédiction.
Nous avons nos héros de la foi. Nous pouvons en faire la liste comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cela peut nous soutenir dans nos combats et nous encourager dans notre persévérance. Mais la foi n'est pas qu'une affaire d'héroïsme, c'est aussi une fidélité quotidienne, comme nous le rappelle Madeleine Delbrel. Il y a des gens que Dieu ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Gens ordinaires, allez dans la paix de Dieu.